Soyez les bienvenus ce dimanche matin, Tendance Confidence, avec aujourd'hui Alexia Vido comme invitée. Je vous avais déjà rencontré pour une émission à l'occasion de l'apparition d'un livre sur votre conversion. Je rappelle que vous êtes journaliste à l'hebdomadaire La Vie. Bonjour.
Bonjour.
Quelques mots sur ces essentiels que nous trouvons au milieu de l'hebdomadaire La Vie, une rubrique que vous coordonnez.
Oui, les essentiels, c'est ce petit cahier central dont la première partie, c'est des témoignages. Chaque semaine, je rencontre des personnes aux horizons très diverses, mais qui toutes sont dans une démarche de recherche, recherche de sens, recherche de foi, recherche de spiritualité, recherche de sens de la vie. Et c'est magnifique chaque semaine de rencontrer des personnes qui sont guidées d'une manière ou d'une autre et qui n'arrêtent pas de chercher cette recherche constante pour avancer dans la vie et trouver le beau, le bien, le vrai.
Les différents carrefours de votre vie qui vous ont conduit un jour à pousser les portes de cette hebdomadaire, école de journalisme ?
Alors j'ai fait Sciences Po Paris, fait ensuite une école de journalisme effectivement à Paris aussi. J'ai commencé à Famille Chrétienne, après je suis allée à Paris Notre-Dame, donc le journal du diocèse de Paris. Et puis par providence, je me suis retrouvée à La Vie, où je suis très heureuse.
Le sous-titre de cette émission diffusée sur Tendance Ouest est « Au cœur de la vie », votre ancien livre avait comme titre « Comme des cœurs brûlants ». Pour les auditeurs qui n'avaient pas écouté cette précédente émission, peut-être quelques mots sur le récit de votre conversion avant que nous ne parlions de votre nouvel ouvrage paru en 2023 sur l'héritage spirituel de Benoît XVI.
Il y a une quinzaine d'années, je me suis retrouvée un peu par hasard dans un monastère, alors que j'étais totalement indifférente aux choses de Dieu, donc j'avais 20 ans. Et en fait, en 3 jours, j'ai fait ce qu'on appelle l'expérience d'une rencontre avec Dieu. Et au cœur même de cette rencontre, en fait, les sœurs qui m'accueillaient dans leur monastère m'ont donné à lire plusieurs livres, toute une pile de livres. Il y avait du Mère Teresa, il y avait le Pèlerin Russe, enfin plein de livres. Et parmi tous ces livres, il y en a un tout petit, c'était Dieu est amour, donc la première encyclique de Benoît XVI. Et notamment ce qui est le cœur du christianisme, à savoir la rencontre avec Dieu qui est amour. Donc c'est cette phrase que j'arrête pas de citer depuis, c'est « Nous avons cru à l'amour de Dieu, c'est ainsi que le chrétien peut exprimer le choix fondamental de sa vie. » À l'origine du fait d'être chrétien, il n'y a pas une grande idée, ni une décision, mais la rencontre avec un événement, avec une personne qui donne à la vie un nouvel horizon, et par là son orientation décisive.
Et pourtant, lorsque le prédécesseur de Benoît XVI, c'est-à-dire Jean-Paul II, est décédé, le décorum du Vatican vous amusait quelque peu.
C'est vrai qu'à l'époque, quand Jean-Paul II est mort, on en a quand même énormément parlé. Pour moi, c'était quelqu'un d'assez lointain, mais ça restait quand même un personnage, quoi, mais plus peut-être historique, politique. Et c'est vrai que tout ce décorum du Vatican, mais ça me paraissait un peu bizarre, un peu d'un autre temps. Et en fait, quand Benoît XVI a été élu, j'étais très choquée par ce choix parce que j'ai gobé un peu toutes les étiquettes que les médias l'affublaient. Et donc j'avais vraiment une image très négative de Benoît XVI, comme un réactionnaire, un conservateur, le Panzer cardinal. Et c'est vrai qu'à partir de ma conversion, j'ai commencé à le lire et en fait à le rencontrer. Alors moi, je ne l'ai jamais rencontré en chair et en os, mais à force de le lire, de le suivre, de l'écouter, j'ai vraiment fait cette expérience d'une rencontre avec une personne, un compagnon de route qui continue à me soutenir en fait.
Parce qu'à l'origine, Alexia Vido, vous pensiez que Benoît XVI n'allait pas du tout dans le sens du progrès que vous souhaitiez.
C'était pas réfléchi. Je répétais ce que j'entendais dans les médias en fait, sans faire l'effort d'essayer de comprendre Benoît XVI et de l'écouter en fait. Et je pense que est-ce qu'on a essayé de l'écouter vraiment? Est-ce qu'on a essayé de le comprendre? Est-ce qu'on a essayé de laisser place à sa pensée qui est tout en complexité et en nuances? Je ne crois pas. Et donc moi, j'ai essayé d'écrire ce livre, cher Benoît XVI, pour essayer, à partir de ces textes, de retrouver son vrai visage. Qui a été Benoît XVI?
Comme une déclaration, comme un merci évident à adresser à Benoît XVI, qui est décédé le 31 décembre 2022.
Oui, alors c'est d'abord un grand merci pour tout ce qu'il m'a apporté dans mon chemin de foi et de conversion, d'aide spirituelle, vraiment une action de grâce pour tout ce qu'il m'a donné à moi, mais aussi à l'Église et au monde. Ce souci qu'il a eu de nous faire entrer dans l'intelligence de la foi, dans la contemplation rationnelle des vérités, et puis surtout, peut-être plus fondamentalement encore, le christianisme, c'est pas une idée, c'est une personne que l'on rencontre et qui se laisse rencontrer.
Donc vous ne croyez pas en quelque chose, mais en quelqu'un?
Voilà, toutes les homélies de Benoît XVI, les audiences, les encycliques, les messages, les Angélus, tout ce qu'il a pu dire et écrire renvoie toujours à cette relation avec le Christ, cette relation vivante. Et ça nous remet vraiment sur l'essentiel de notre vie, en fait. Et ça parle aussi bien aux chrétiens comme aux non-chrétiens, parce qu'on est tous à la recherche de ce sens, de ce Dieu qui va pouvoir donner une ampleur à notre vie et nous faire vivre à la hauteur de notre dignité.
Alexia Vido, vous êtes l'auteur de ce livre, donc « Cher Benoît XVI », comme un merci évident que vous lui adressez. En tant que journaliste, en tant que passionné par l'écriture, par la rencontre, est-ce que c'est raisonnable de croire?
Ah, bah ça c'est une autre chose que je dois à Benoît XVI, c'est qu'il m'a fait comprendre qu'on peut tout à fait être chrétien sans pour autant être un imbécile. C'est tout le travail qu'il a fait d'articuler foi et raison. D'ailleurs, il a dit à Peter Zeewald, son biographe, que si Dieu a choisi de faire pape un professeur, c'est sans doute pour apporter cet élément de réflexion et notamment d'articulation entre la foi et la raison.
Le pape Benoît XVI a été pour vous comme un accompagnateur spirituel grâce à ses différents livres.
Oui, parce qu'en fait, dès le début de ma conversion, j'ai été passionnée par saint Paul. Et justement, l'année 2008, donc l'année de ma conversion, c'était l'année paulinienne que Benoît XVI avait décidé de faire. Et c'est vrai que Benoît XVI a été pour moi, et pour moi, je peux le dire encore au présent, un compagnon de route. Il parlait de saint Augustin, pour lui, comme un compagnon de route, et je trouve ça très beau. Il l'a jamais rencontré, évidemment, parce que 16 siècles le séparent. Et pourtant, il dit l'avoir, le connaître de près par l'étude et par la prière. Donc je peux dire pareil de Benoît XVI. J'ai l'impression de le connaître de près par la prière, parce que voilà, c'est dans la communion des saints et des pécheurs, on est tous liés les uns aux autres, et par l'étude, alors c'est un grand mot, mais en tout cas par la lecture de ses écrits, alors de ses encycliques, Dieu est amour notamment, mais aussi sur l'espérance, de ses audiences générales, ses homélies, ses trois tomes de Jésus de Nazareth qui moi m'ont passionné en fait.
Et j'imagine aussi le discours du pape Benoît XVI lorsqu'il est venu à Paris au collège des Bernardins.
Ah oui, ce discours formidable sur le querere Deum. Et je pense d'ailleurs que son pontificat peut être ramassé dans cette expression « chercher Dieu et se laisser trouver par lui ». Il dit notamment « aujourd'hui, l'actuelle absence de Dieu est aussi tacitement hantée par la question qui le concerne. Chercher Dieu et se laisser trouver par lui n'est pas moins nécessaire aujourd'hui que par le passé. » Tout est dit en fait.
Vous parlez de pape Benoît XVI avec beaucoup de passion en tant que journaliste et auteur de ce livre. Pourtant, vous estimez que le pape Benoît XVI, bien que professeur, est aussi un piètre communicant.
Un piètre communicant, c'est vrai, je pense qu'il n'était pas, il n'avait pas forcément les codes. Il a peut-être pas voulu les prendre, les codes de la communication actuelle. Et puis aussi, encore une fois, les médias, je pense qu'on n'a pas pris la peine d'essayer de l'écouter. Aujourd'hui, tout va tellement vite, on attrape une petite parole qu'on enlève de son contexte. Donc, piètre communicant parce qu'il n'avait pas les codes, il n'a pas voulu les prendre sans doute. Et mauvais gouvernant parce que c'était pas son truc en fait, c'est l'homme qui ne voulait pas être pape selon ce livre devenu célèbre. Voilà, donc ça c'est sûr, mais je pense que heureusement qu'on a eu ce pape-là, parce qu'il a fait un bien fou pour l'Église et pour le monde.
Et le titre que vous citez, Alexia Vidot, est « L'homme qui ne voulait pas être pape », dont l'auteur est Nicolas Dia, et c'est paru aux éditions Albin Michel, tandis que nous parlons aujourd'hui de votre livre paru en 2023, « Cher Benoît XVI », paru aux éditions de l'Emmanuel. Tendance Confidence, aujourd'hui, avec comme invité Alexia Vidot, journaliste et auteur de ce livre qui a pour titre « Cher Benoît XVI ». Nous parlons avec vous de son héritage spirituel, ce livre paru en 2023 aux éditions de l'Emmanuel. Vous parlez de ce pape comme un accompagnateur spirituel, une conversion que vous avez vécue en 2008, Alexia Vidot. Vous parlez dans ce livre aussi, en reprenant l'image de saint Paul, qui parle de la fragilité qui peut être une puissance également. Mais de quelle puissance s'agit-il ?
C'est tout le paradoxe de la foi chrétienne. La foi, notre foi est très paradoxale. En fait, l'idée, c'est qu'il faut librement mettre notre nature faible au contact de la grâce qui est toute puissante. Et c'est vrai que dès le 19 avril 2005, quand Benoît XVI a été élu, il s'est présenté voilà, comme « après le grand pape Jean-Paul II, me voici humble et simple travailleur dans la vigne du Seigneur ». Et alors, je ne pourrais pas le citer exactement, mais il parle de « je me réjouis que Dieu se serve aussi d'instruments insuffisants ». Donc dès le départ, en fait, il a mis en avant son insuffisance, sa faiblesse, son incapacité, son humanité, mais avec cette espérance folle que Dieu, quand on lui laisse les coudées franches, il peut accomplir en nous l'impossible, en fait.
Et concernant sa mission de pape, Benoît XVI écrit « Le pape n'est pas la star autour de laquelle tout tourne, il est totalement et seulement le vicaire, il renvoie à l'autre qui se trouve au milieu de nous. »
À l'image de saint Jean-Baptiste, Benoît XVI a toujours voulu se faire tout petit, s'effacer, pour que nos regards ne s'arrêtent pas à lui, mais soient dirigés vers le Christ. Tout son pontificat, toute son existence, ça a été de nous tourner vers Dieu, de mettre Dieu à la première place. Et donc lui, il ne voulait pas être cette star autour de laquelle tout tourne. J'ai notamment en tête ces JMJ à Madrid, la veillée
du Journée mondiale de la jeunesse.
Voilà, exactement, le samedi soir. Dès les premières JMJ à Cologne, Benoît XVI avait voulu instaurer un temps d'adoration silencieuse le samedi soir. Personne n'y avait cru en disant « maintenant les jeunes, ils ont besoin de fêtes, de chants, de bouger, etc. » Eh ben non, Benoît XVI a instauré ce temps d'adoration, et dès Cologne, ça a marché. Et à Madrid, donc il y a eu cette tempête qui a secoué le tarmac sur lequel avait lieu la célébration, donc vraiment la pluie, enfin c'était... Alors j'y étais pas, mais j'ai vu les images, c'était assez impressionnant. Et puis Benoît XVI a tenu, il a fait un petit discours qu'il a un peu raccourci, et puis ensuite, ben voilà, c'était le temps de l'adoration silencieuse. Et il a réussi... ce coup de maître, si j'ose dire, à faire communier 1,5 million de jeunes dans le silence et à tourner le regard vers Dieu. Et je trouve ça extraordinaire. Alors, ce pape Benoît XVI, dont on disait qu'il n'avait aucun charisme, il a réussi ce miracle d'emporter les jeunes vers le Christ, des jeunes qui sont saturés de bruit, de réseaux sociaux, d'informations, etc. Il y avait un silence de cathédrale.
Vous écrivez, Alexia Vido, depuis le 31 décembre 2022. C'est un peu comme se lever et entendre dire, tout doucement, au petit déjeuner, « Grand-père est mort ce matin. » Et ce grand-père, c'est Benoît XVI.
Oui, en fait, c'est une amie qui m'a envoyé ça le 31 au matin. Et en fait, j'aurais pas pu mieux dire. Et effectivement, alors, ce qui est étonnant, c'est que, sans révéler aucun secret, j'avais rendu mon livre un an avant. Donc, pile le 31 décembre 2021, j'avais rendu mon manuscrit. Et donc, en l'écrivant, je m'étais un peu projetée dans l'après Benoît XVI. Donc, je me pensais prête. Et puis, c'est vrai que parfois, j'avais même hâte que mon livre sorte. Malheureusement, c'est comme ça. Souvent, quand on écrit quelque chose, on a hâte que ça soit en librairie pour que pour faire connaître Benoît XVI. Enfin, j'avais ce désir-là. Et, enfin, disons que j'étais étonnée de ma réaction en apprenant la mort de Benoît XVI. Mais j'avais cette tristesse, ce deuil à consentir. Et aujourd'hui encore, j'ai ce petit manque. La relation continue, mais voilà, c'est différent.
Lui qui a écrit beaucoup de livres, hein, le pape Benoît XVI, de nombreuses encycliques, de nombreuses homélies, de nombreuses conférences aussi. Lui, le pape qui a été professeur également, il vous a tendu la main et c'est vous qui prenez en quelque sorte le relais en 2023 en écrivant ce titre « Cher Benoît XVI » paru aux éditions Emmanuel.
En fait, je lui ai écrit des lettres. Je le tutoie, même j'ai eu cette audace de tutoyer le pape Benoît XVI, pour lui parler et le faire parler, pour aussi, comment dire, encourager les chrétiens et les non-chrétiens à lire Benoît XVI, à lire ses textes. Alors je cite des textes très connus, par exemple des extraits de son discours au Collège des Bernardins, ou à Ratisbonne, ou bref, ses encycliques, etc. Mais aussi des textes qui ont pu passer complètement inaperçus, par exemple... après une soirée bavaroise qui avait été organisée en son honneur au Vatican. Je pense que personne n'a forcément lu ce discours, et qui est pourtant passionnant, où il parle justement, est-ce qu'on a le droit d'être heureux, joyeux, insouciant, alors que le monde est tellement obscur, tellement marqué par le mal et la souffrance? Il dit oui, parce qu'en fait, dire non à la joie, c'est rendre service à personne. Et quand on dit non à la joie, on rend en fait le monde encore plus obscur. Donc je trouve que c'est très très beau comme message aujourd'hui. Donc cette simple phrase, moi, ça m'encourage à dire oui à la joie. D'ailleurs, Benoît XVI, dès son homélie inaugurale, a décrit son service de pasteur comme un service rendu à la joie de Dieu qui veut faire son entrée dans le monde.
Quelles sont ces lignes empruntées au pape Benoît XVI que vous aimeriez lire maintenant, Alexia Vido, aux auditeurs de Tendance Ouest?
Parlons de la joie. C'est avant son voyage en Bavière en août 2006. Et donc, c'est une interview à la télévision allemande. Et le journaliste lui demande quel est le rôle de l'humour dans la vie d'un pape, de la légèreté de l'être. Benoît XVI répond « Je ne suis pas le genre d'homme qui a toujours une blague à raconter. Mais je trouve qu'il est très important de savoir cueillir les côtés amusants de la vie et sa dimension joyeuse et de ne pas tout prendre de façon tragique. Et je dirais que cela est même nécessaire pour mon ministère. Un écrivain a dit que les anges pouvaient voler parce qu'ils ne se prennent pas trop au sérieux. Et nous, nous pourrions peut-être voler un peu plus si nous ne nous donnions pas toujours de grands airs. »
Avec vous, nous avons parlé d'espérance, de joie, nous avons parlé de différents écrits de Benoît XVI, d'ailleurs de larges extraits à retrouver dans votre livre « Cher Benoît XVI ». Ce sont des lettres que vous adressez au pape décédé le 31 décembre 2022. Si la foi n'évite pas la souffrance, à quoi cela sert-il de croire ?
Effectivement, la foi n'empêche pas la souffrance. Dieu ne nous épargne pas, c'est le lot de la vie, quoi, de toute vie. En revanche, je pense que, comme disait Benoît XVI, celui qui croit n'est jamais seul. J'ai perdu ma mère il y a quelques temps. J'ai pleuré. J'ai encore aujourd'hui, ça fait 4 ans, je trouve ça difficile. J'ai cette vraie souffrance qui persiste. Mais voilà, celui qui croit n'est jamais seul, dans la vie comme dans la mort. Donc c'est ce savoir soutenu, Dieu qui nous prend par la main, en fait, et qui souffre avec nous, en fait.
Et pour terminer cet entretien avec vous, Alexia Vido, comment espérez-vous la vie éternelle ?
Je répondrai un peu comme Benoît XVI, parce que la question lui a été posée par Peter Zeewald, qu'est-ce que vous attendez de la vie éternelle? Donc Benoît XVI dit que voilà, la vie éternelle sera une immersion toujours nouvelle dans l'immensité de l'être, une nouvelle découverte incessante. Donc ça c'est l'aspect théologique. Et après, l'aspect humain, il dit « je me réjouis de retrouver mon père, ma mère, ma sœur, mon frère, mes amis ». Donc moi c'est pareil, je voudrais retrouver déjà Dieu, de pouvoir me plonger dans cet océan d'amour et de joie et retrouver mes parents, ma famille, mes amis.
Et Benoît XVI autour de la table.
Évidemment, j'espère.
Et cette citation que vous nous laissez aux auditeurs de Tendance Ouest ce matin pour terminer cette émission.
Elle est toute simple, nous avons cru à l'amour, telle est l'essence du christianisme.
Merci Alexia Vidot.
Merci à vous.